Lettres romandes, entretien littéraire et irrégulier, un podcast proposé par Julien Sansonnance. 11e épisode, avril 2020, je reçois l'écrivain et critique littéraire Olivier Molin. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Molin, écrivain, auteur de plusieurs romans et essais, vous êtes également critique littéraire français. Puis-je vous demander de vous présenter avec vos propres mots ?
Oui, bonjour tout d'abord, merci de m'accueillir sur votre blog. Écoutez, je suis un homme de 50 ans et je suis journaliste pour gagner ma vie. Et à côté de ça, j'ai écrit une dizaine de romans. Voilà un peu une présentation brève.
Difficile de savoir si on vit une époque formidable, mais en tout cas elle est très particulière. Je parle ici naturellement du confinement, alors c'est un confinement qui est hard en France, un petit peu plus soft en Suisse. Comment est-ce que vous vivez cela ? Quel regard d'écrivain et de citoyen vous portez sur cette période tout à fait inédite ?
Écoutez, plusieurs choses. D'abord, à titre personnel, je pense qu'il y a largement pire que ma situation. Ce n'est pas très drôle, mais j'ai un appartement assez confortable. Je le partage avec ma femme et deux filles. Donc, on est quatre. Ça se passe plutôt bien. Je pense beaucoup en ce moment aux gens qui ont des enfants en bas âge. Et ça doit être très, très dur d'être dans un appartement avec des petits-enfants sans pouvoir les faire sortir. Donc, voilà, à titre personnel, le confinement se passe plutôt bien, d'autant que le travail continue à distance pour la presse. Après, si vous voulez, une analyse plus générale, je pense que cette situation que l'on vit actuellement, si vous voulez, et là je parle pour la France, hein, pour mon pays, est quelque chose d'extrêmement humiliant. C'est-à-dire qu'on a véritablement là des choses qui se sont révélées dans cette crise et qui montrent que la France s'est bel et bien engagée, si vous voulez, dans une forme de, j'allais dire, de tiers-mondisation. C'est peut-être exagéré, mais enfin, c'est pas très loin. Et moi, ce qui me frappe surtout dans cette situation, si vous voulez, c'est que ça fait, vous savez, en France, ça fait quand même belle lurette qu'il y a des débats sur la perte de souveraineté, ce que ça implique, mais c'était très abstrait jusqu'à présent. C'est quelque chose d'assez abstrait, avec des débats biaisés, très idéologiques, où des gens se permettaient même de ricaner un peu lorsqu'on parlait de souveraineté. Alors là, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'on se rend compte concrètement ce que veut dire une perte de souveraineté. Hein, c'est-à-dire que la voie dans laquelle la France est engagée depuis quelques décennies, là, montre tout simplement où on en est, c'est-à-dire que la dépendance totale à l'étranger, notamment à la Chine, pour des choses de première importance, des médicaments, etc., impossibilité d'avoir des tests, des masques, enfin, etc. Et là, on se rend compte, si vous voulez, concrètement de ce qu'est une perte de souveraineté nationale, quoi.
Finalement, les critiques de la mondialisation libérale avaient raison, d'une certaine manière, ou en tout cas, la situation semble leur donner assez largement raison.
En tout cas, je pense, si vous voulez, que la situation leur donne raison, mais c'est surtout que je pense que par idéologie, on s'est assis sur des idées, si vous voulez, qui me paraissent de bon sens, qui sont des idées de l'État stratège, l'État qui est là pour assurer la sécurité de ses citoyens, etc. On s'est assis là-dessus. Et on se rend compte aujourd'hui, vous savez, j'ai un exemple, j'ai vu encore dans Le Monde d'aujourd'hui, on avait une usine en Bretagne qui fabriquait des millions de masques par an, qui a fermé ses portes en septembre 2018. Vous voyez, bon, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on s'est dit, si vous voulez, il y avait quelque chose un peu de bisounours, où on s'est dit maintenant le monde est un grand village, chacun va se spécialiser, certains vont produire, d'autres vont transformer, d'autres vont consommer, et puis tout ira très bien, tout est ouvert, il n'y aura plus de barrières, etc. Et puis on se rend compte que quand il y a une crise, alors ça aurait pu être une guerre, mais en l'occurrence c'est une épidémie, et bien les choses ne fonctionnent pas du tout comme on l'espérait, quoi.
Une particularité peut-être de la situation française en ce qui concerne la pandémie de coronavirus, c'est qu'elle intervient après une séquence historique également très significative, très importante, qu'a été le mouvement des Gilets jaunes. Alors naturellement, les deux événements sont de nature tout à fait différente, on ne peut pas les lier directement entre eux, mais est-ce qu'on peut quand même chercher à donner du sens à ces événements ? Est-ce qu'il faut y voir une longue phase finalement chaotique en France ?
Ouais, si vous voulez, les lier directement, ça paraît en effet assez difficile dans la mesure où ils n'ont pas grand-chose à voir, ces deux événements. Mais il n'empêche que les choses n'arrivent jamais tout à fait par hasard et que je crois quand même que cette séquence, si on met tout bout à bout, on arrive quand même à l'épuisement d'un cycle, quoi. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ça donne, si vous voulez, c'est qu'il y a un cycle qui se referme. Il y en a un autre probablement qui va s'ouvrir ou qui est en train de s'ouvrir. Mais c'est évidemment dans les périodes, vous savez, je crois que c'est Gramsci qui disait que dans les... Je ne connais plus la citation exacte, et peu importe, mais qui disait qu'entre deux mondes, Vous savez, c'est quand un monde se termine et qu'un autre apparaît, c'est quand même là la période de tous les dangers, quoi. C'est-à-dire, tout peut partir en sucette, si vous me passez l'expression.
Oui, tout à fait. Et selon vous, cette période un peu intermédiaire, elle a débuté quand? Est-ce qu'elle a débuté avec la Seconde Guerre mondiale? Est-ce qu'elle a débuté plutôt avec la Révolution française? Quand est-ce que les choses ont commencé à basculer d'une certaine manière?
Moi, si vous voulez, l'impression que j'ai, c'est que on est rentré. Alors évidemment, on pourrait remonter très loin hein, sur on va dire, vous parlez de libéralisme avant, mais sur la séquence libérale a commencé, même probablement les prémices ont commencé. On peut aujourd'hui aller jusqu'à la Renaissance quasiment. Vous voyez, c'est vraiment au XVIIIe siècle que les choses se mettent en place, puis au XIXe, là, on rentre dans une séquence qui tend en effet vers la mondialisation. Mais je pense, moi, précisément, que tout doucement, alors évidemment, le temps historique n'est pas le temps de l'actualité, mais je pense quand même qu'on sort tout doucement de cette séquence. C'est-à-dire qu'on, alors vers où on va, j'en sais rien, on va pas vers un retour en arrière, je crois pas du tout qu'on retournera, mais on va vers quelque chose d'autre, c'est-à-dire que la mondialisation telle qu'on nous l'a vendue il y a une quinzaine d'années en disant que c'était l'horizon ultime de l'humanité et que c'était quelque chose d'inéluctable et qui allait en plus apporter le bonheur, je crois que ça, c'est en train de mourir, cette idée.
Vous y avez déjà très largement répondu, mais Est-ce que vous êtes à l'aise dans votre époque? Est-ce que vous aimez cette époque, Olivier Moulin?
Écoutez, c'est une question qui est plus compliquée que, figurez-vous, que ce qu'on pourrait attendre, parce que, évidemment, cette époque m'épouvante sur plein d'aspects, mais en même temps, je la trouve passionnante. C'est-à-dire, en tant que, vous voyez, en tant que témoin, quand je dis témoin, ou en tant qu'observateur, on va dire, hein, je la trouve passionnante. Parce que, si vous voulez, on nous avait vendu, quand même, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, la fin de l'histoire, et puis un monde totalement apaisé, sans frontières, avec une économie qui serait magnifique et qui profiterait à tous, enfin la fin des idéologies, etc. etc. Et on se rend compte que pas du tout, l'histoire continue son cours, et du reste c'était très naïf d'avoir cru que l'histoire s'arrêterait. Mais là l'histoire redémarre, j'ai l'impression. Donc évidemment là il faut mettre ses ceintures de sécurité parce que ça va secouer quoi.
Ça secoue un peu, oui.
Donc ça va pas être très drôle, je pense que c'est une période qui va pas être très drôle. Alors moi je vous ai dit avant, j'ai 50 ans, ma vie elle est en partie faite si vous voulez. Mais je pense surtout à la génération d'après, notamment à celle de mes enfants, je pense qu'ils vont vivre dans un monde qui ne sera pas très drôle du tout, malheureusement.
Pour en venir un peu plus précisément à la littérature, est-ce qu'un écrivain peut être à l'aise dans son temps? Finalement, la détestation de son époque, c'est quelque chose qui traverse l'histoire de la littérature depuis longtemps.
Oui, c'est vrai. Alors, pas forcément la détestation, du reste, l'esprit critique par rapport à son époque. Ça, je crois, en effet, que c'est assez important. Mais je vous répète, la détestation, c'est plus compliqué que ça. Parce que moi, mine de rien, c'est vrai que je peux paraître comme ça, avoir un discours très anti-moderne et très, très critique par rapport à cette modernité libérale. Mais enfin, si je suis très honnête avec moi-même, il y a quand même des points de cette époque qui me conviennent. Vous voyez, je profite aussi de ce monde moderne et libre. Donc, les choses sont plus ambigu et plus compliqué, si vous voulez. Mais il est vrai que moi j'ai plutôt une vision assez critique de ce monde, parce que je pense que cette mondialisation libérale, appelons-la comme ça, on pourrait l'appeler le progressisme, enfin peu importe, mais elle avait certainement des idées très nobles et des belles idées qui étaient sincères, mais je pense que elle a quand même les espoirs qu'elle a fondés ont été tous les uns après les autres humilié, quoi. Hein, c'est surtout ça, moi, qui me frappe, si vous voulez, c'est que cette... Et là, après, le concept de... Parce que je parlais de progressisme, mais le concept de progrès, qui est un concept absolument incroyable, parce qu'il est, il résiste à tout. Quand on pense qu'après le XXe siècle, on a continué, après les hécatombes des deux secondes guerres mondiales, on a continué à croire à l'idée du progrès, c'est quand même fascinant. C'est-à-dire, on se dit, quand est-ce qu'on remettra... Moi, je pense que c'est assez central, si vous voulez, non pas de jeter de tout jeter par-dessus bord, mais de questionner le progrès, ça me semble aujourd'hui quelque chose de fondamental, le questionner, c'est-à-dire demander ce progrès à tout prix, est-ce qu'il nous sert ou est-ce qu'il finit pas par nous desservir? C'est-à-dire en gros en nous enlevant plus de choses qu'il nous apporte, vous voyez? Je pense que c'est un questionnement qui est très intéressant aujourd'hui et qui est largement éludé.
Comment est-ce que vous parvenez à finalement mêler, concilier ce questionnement sur le progrès qui est plutôt d'ordre politique avec un travail qui est d'ordre littéraire? Comment Est-ce qu'on arrive toujours facilement à mêler ces deux grandes sphères, finalement ?
Écoutez, c'est très intéressant parce que je pense qu'en effet, il y a, dans mon travail de romancier, il y a certainement, ces idées existent, mais elles n'existent pas au sens des idées politiques plaquées. Moi, si vous voulez, je suis persuadé d'une chose, c'est que le roman politique, c'est, pour rater un roman, la meilleure manière, c'est de faire de la politique. Je pense que l'idéologie et la politique doivent s'arrêter au seuil du roman. Ça, j'en suis convaincu. Et c'est-à-dire que le romancier, tel que je le vois moi, c'est-à-dire c'est une manière de créer des univers, de créer des personnages, de raconter des histoires. Moi, j'adore raconter des histoires. Mais il est évident que moi, la manière dont j'essaie d'articuler ce que vous me demandez par rapport à ces idées sur le progrès, c'est alors c'est probablement en essayant dans mes romans d'imaginer des personnages qui, un peu comme moi, sont lassés de ce monde, qui ne s'y retrouvent plus, si vous voulez, et qui vont créer des sortes de contre-monde, on pourrait dire, vous voyez, qui vont créer des sortes de contre-monde, c'est-à-dire des mondes où ils vont, essayer de recréer. J'allais dire valeur, mais c'est un terme qui me semble un peu pompeux, mais ils vont recréer en fait des fidélités anciennes, on pourrait dire, et des manières de vivre anciennes. Voilà, c'est plutôt ça. Vous voyez, des manières de vivre que cette modernité a mis à bas, quoi, tout simplement. Donc voilà, il y a peut-être, c'est par ce biais-là, mais si vous voulez, il n'y a pas de politique au sens propre. C'est-à-dire, j'ai un défaut, évidemment, parfois, c'est de faire parler mes personnages et de les faire discourir. Alors, je le fais un peu trop, il faut que je fasse attention, mais en tout cas, je veux dire qu'il n'y a pas de politique directement, mais il y a quand même une tentative dans mes romans de faire échapper à des personnages qui sont souvent un peu des ratés, des bras cassés. Personnages un petit peu, on pourrait presque dire, vous savez, des picaros, comme on disait avant dans le roman picaresque, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas adaptés à ce monde d'efficacité, à ce monde où nous sommes de produire et de consommer. Et c'est un peu des rêveurs, mes personnages, souvent. Comme dans Les Lumières, je crois que c'est, vous parliez de La Fête est finie, non, ou Les Lumières du Ciel.
Oui, Les Lumières du Ciel, c'est assez explicite, cette volonté finalement de recréer un univers avec ses propres règles, ses propres codes. Il y a un côté un peu libertaire finalement dans ce livre.
Oui, après c'est vrai, il y a un côté un peu libertaire, c'est-à-dire dans la mesure où ce sont des gens qui vont recréer leur propre liberté au sein d'un monde qui même si elle érige la liberté, si vous voulez, en valeur suprême, au nom de la liberté, paradoxalement, parfois la rogne, en vérité. Mmh. C'est ça le paradoxe quand même de la liberté, que la liberté libérale, pourrait-on dire.
Tout à fait. Sans doute la subtilité d'un écrivain, c'est de faire ce que vous faites, c'est-à-dire de ne pas assommer le lecteur de thèses et d'idéologies, parce qu'effectivement, il n'y a rien de pire. Ça se voit, ça se sent quand on lit des textes comme ça qui veulent nous faire passer un message. En général, ça ne passe pas, à moins que ce soit des essais qui soient présentés comme tels. Mais c'est vrai que pour des romans, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, on peut sentir parfois entre vos lignes le côté politique apparaît parfois... mais c'est fait suffisamment subtilement, disons, pour que
ce soit... Écoutez, c'est gentil, c'est un beau compliment que vous me faites, parce que si c'est le cas, je suis ravi, parce que c'est ce que j'essaye de faire. Je suis absolument d'accord avec vous. Dans il y a des romanciers, alors c'est pas la peine de les citer, mais il y a des romanciers qui ont un talent d'écriture incontestable, si vous voulez, mais qui confondent en effet le roman et l'essai. Ouais. C'est-à-dire que dans le roman, se mettent à discourir de, alors parfois des choses très intéressantes, du reste, c'est pas la question, mais si vous voulez, je pense que c'est pas le lieu du roman. Le lieu du roman, là, il faut faire de l'essai dans ce cas, en effet.
Ouais, tout à fait.
Et donc, moi, j'essaye en effet de raconter quand même mes histoires et surtout de ne pas me laisser piéger par l'idéologie. Et quand je dis ça, je veux dire par là que dans le développement d'un personnage, si vous voulez, même si à un moment donné, ça vous paraît bizarre ce que je dis, mais même s'il se met à penser contre moi, contre ce que je pense, je le laisserai penser comme ça et agir comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais, tout à fait. L'autonomie des personnages.
Il faut en partie effectivement laisser cette autonomie des personnages jusqu'à les rendre crédibles et en tout cas cohérents et qui forment quelque chose de cohérent, quoi.
C'est ça, tout à fait. Alors c'est une grande question, mais qu'est-ce que la littérature pour vous ?
Ouh là, oui, ça c'est en effet une très grande question. J'aurais, comme toutes les grandes questions, j'aurais beaucoup de mal à vous répondre. Moi, je crois par contre, je ne sais pas si je répondrais bien en vous disant ça, mais ce dont je suis persuadé, vous savez, je suis journaliste aussi par ailleurs, j'aime beaucoup lire des essais, et je sais que dans le milieu, on va dire, qu'on pourrait qualifier d'intellectuel, que ce soit celui de certains journalistes ou de certains essayistes, il y a toujours quelque chose qui m'a un peu frappé, c'est, je ne dirais pas le mépris, le mot est trop fort, mais la non-considération du roman pour, mais en tant qu'explication d'une époque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, je crois que le roman, donc en dehors de son aspect artistique, pourrait-on dire, littéraire pur, c'est en dehors du plaisir esthétique qu'il donne, il est aussi quelque chose qui permet parfois de comprendre son époque et de parfois la comprendre mieux que, à mon sens, que même parfois un livre d'histoire aussi. J'adore les livres d'histoire. Hein, j'ai une formation d'historien et je lis beaucoup de livres d'histoire. Mm-hmm. Mais je vous donne un exemple concret, si vous voulez. Je viens de lire, j'ai profité du confinement pour lire un livre qui est édité par un éditeur suisse d'ailleurs, l'éditeur des éditions Noir et Blanc, mm-hmm. et qui ont réédité un livre magnifique que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Le Cheval Rouge de Eugenio Corti.
Non, malheureusement pas.
Qui est un écrivain italien qui est mort il n'y a pas si longtemps, une dizaine d'années, et qui a écrit, alors c'est un monument de 1500 pages, qui raconte l'histoire de l'Italie de 1940 à peu près à 1974, mm-hmm. qui avait été publié par l'Âge d'Homme en son temps, en 1994, et qui est réédité aujourd'hui par les éditions Noir sur Blanc. Et bien, ce livre vous donne, si vous voulez, une analyse de cette période absolument inouïe. Vous voyez, par la vérité morale des personnages, alors les faits sont évidemment, c'est un romancier très réaliste qui a maintenu la véracité des faits, qui ne, vous voyez, mais ça donne une explication et une analyse des événements qu'un livre d'histoire aussi brillant fut-il, à mon sens, ne permettrait pas. Mm-hmm. Donc il y a aussi le roman, et puis bon, ce qu'on dit toujours, mais c'est absolument vrai, pour comprendre le 19e siècle, il faut lire Balzac.
C'est ça, tout à fait. À côté des livres de sociologie aussi, c'est une autre manière d'accéder finalement à la connaissance du réel. Qui est complémentaire.
Exactement.
En fait.
Et, oui, et puis bien sûr, il ne faut pas les opposer, je suis absolument d'accord avec vous. Mais je veux dire que souvent, enfin voilà, parce que je vous disais ça pourquoi, parce que je constate, notamment en France, qu'il y a beaucoup d'intellectuels, entre guillemets, qui considèrent le roman comme un pur amusement, quelque chose que l'on lit parce que pour se faire plaisir, ce qui est vrai, hein, certainement, mais moi je pense qu'il y a une autre dimension du roman qui permet d'élargir la compréhension de la réalité et de l'époque dans laquelle on vit, ou des époques passées d'ailleurs.
Hein. Tout à fait. Pour revenir à vos livres, vous adoptez donc un regard qui est parfois critique, un petit peu caustique, et vous ne manquez pas d'humour, hein. Ça c'est un trait aussi qu'on perçoit très, très clairement chez vous, vos livres sont souvent très drôles. Je pense aux Lumières du ciel, notamment, il y a des scènes tout à fait hilarantes. Est-ce que c'est naturel chez vous ou est-ce que vous travaillez cet aspect de vos livres? Est-ce que...
La question de l'humour, figurez-vous qu'elle est, j'arrive même pas à la trancher moi-même parce que quand j'ai commencé à publier mes romans, pour vous dire la vérité, beaucoup de critiques l'ont dit, on me l'a beaucoup dit, c'est des romans, paraît-il, qui font beaucoup rire. J'adore l'humour en littérature, du reste. En tant que lecteur, j'aime bien les romans drôles. Je trouve qu'un roman n'a pas à être forcément tragique et sombre. Enfin, j'aime bien rire aussi quand je lis. Bon. Mais après, l'impression que j'ai, si vous voulez, c'est que je vois les choses d'une certaine manière et je vois les choses d'une manière toujours facilement un peu grotesque, quoi. Vous voyez, ce grotesque, mais assez naturel. Sauf qu'après, évidemment, après, il y a un travail derrière. Et alors, le travail, on va dire, de l'humour, enfin, c'est un travail, très, très compliqué parce que, vous savez, on est sur la crête. Et alors, si on tombe d'un côté, on est lourd, on devient lourd. Alors, il faut rester sur la crête. Alors c'est un travail, mais moi c'est un travail qui passe beaucoup par le dialogue d'ailleurs, mais pas seulement, ou par des situations. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je crois qui, enfin, voir cette espèce de grotesque ou cette espèce d'humour qu'on peut voir même dans les scènes parfois les plus sérieuses. Vous savez, je sais pas à quoi c'est dû, mais je vois toujours le petit côté le type qui va se ramasser sur une peau de banane, quoi.
C'est ça. Un côté farce en fait, très souvent.
Il y a un côté farce, en effet. Et puis, alors, ça, je crois que, vous savez, moi, je suis rentré en tant que lecteur en littérature, précisément par les farces médiévales. Alors, probablement que ça m'a... J'ai beaucoup lu de farces médiévales, à un moment donné. Moi, j'ai fait des études d'histoire, et pendant très longtemps, j'étais un peu comme les gens dont je viens de parler. Je considérais pas le roman comme quelque chose de très sérieux. Et je lisais que des livres d'histoire, et je suis rentré en littérature... J'avais une passion pour l'histoire du Moyen-Âge, et donc j'ai commencé à lire des farces, mais dans un esprit d'historien, et j'ai pris un plaisir immense à lire ces farces médiévales, et je suis rentré en littérature comme ça, en fait. En littérature comme lecteur, hein, j'entends.
Ouais, c'est intéressant. Alors, vous avez écrit Les Retrouvailles, qui est un excellent roman de confinement, un roman à lire les jours d'aujourd'hui. Vous avez également écrit Le Populisme ou la Mort, qui est dans un tout autre genre, hein, puisqu'il s'agit... En somme, quelque chose entre le journal et l'essai. Hein.
Oui, c'est ça.
Un éloge du populisme, autant dire que c'est un livre qui va à l'encontre d'à peu près tout ce qu'on peut lire partout ailleurs, en particulier dans les médias, mais beaucoup aussi dans le domaine des livres et de la littérature. On peut imaginer que c'est un livre qui vous a valu l'estime de certains et le mépris de beaucoup d'autres. C'est un livre courageux, vous ne prenez pas beaucoup de pincettes dans cet ouvrage, on sent que vous n'êtes pas beaucoup censuré, mais peut-être l'avez-vous fait?
Oui, tout à fait. Alors, là, c'est un livre. Non, je me suis pas censuré du tout, justement. L'idée, c'était de ne pas me censurer, mais en même temps aussi de pouvoir assumer tout ce qui serait imprimé, si vous voulez. C'est-à-dire de pas non plus céder à une provocation qui soit purement réactive, voyez. Donc, à partir du moment où j'ai imprimé ce livre et je l'ai relu évidemment, etc. Tout ce qui est, alors il y a des choses en effet qui sont un petit peu par le fil de la plume qui peuvent paraître excessives et qui le sont certainement. Mais si vous voulez, le pari c'était en effet de faire un éloge du populisme. Parce que alors juste avant de répondre à cette question, quand même, ça, en France, ça m'a pas valu que des amitiés, comme vous l'imaginez. Hein.
Justement, tout à fait, oui.
Ah, voilà, c'est bon. Enfin, ça, je m'y attendais aussi, hein, si vous voulez. Mais il est évident qu'en France, on est quand même encore dans une séquence où la liberté, on en parlait avant, mais la liberté est une valeur extrêmement abstraite, mais elle n'est pas très. Vous voyez, alors, je ne sais pas comment c'est ensuite. Je crois que c'est quand même. Vous avez moins de ce genre de problème que nous, j'ai l'impression. Vous êtes plus habitués à dialoguer et à laisser des opinions un peu. C'est l'impression que j'ai de France, en tout
Le
cas.
champ médiatique semble un peu moins tendu. Moi, c'est surtout
Voilà.
cette tension que je ressens de l'extérieur en France. Et effectivement, peut-être qu'en Suisse, il y a encore une liberté, mais on sent aussi évidemment que les idées dissidentes sont mal vues et condamnées symboliquement.
Oui. Mais en tout cas, bon, c'est vrai qu'en France, ça m'a pas valu que des amitiés. Mais enfin, après, vous savez, la meilleure manière de quand un livre sort et qu'on l'aime pas, c'est d'en parler le moins possible. Hein. Donc, ça a été ça en tout cas, une certaine frange de la presse. Et puis, il y a une autre presse, en effet, alors qui en a parlé avec, qui en a fait l'éloge parce que ça allait dans le sens de ce qu'elle pensait. Et puis, certains, en effet, alors il y en a pas beaucoup, mais certains qui n'étaient pas forcément d'accord avec ce livre, mais qui ont su en dire un mot gentil en disant que c'était courageux et qu'on n'est pas d'accord, mais qu'il avait le droit de le faire, en gros. Bon, c'est déjà pas
Ouais,
mal. Hein, c'est déjà pas mal,
tout à
voilà.
fait, tout
Et
à fait.
sinon, après, oui, non, la question du populisme, si vous voulez, ce qui m'agaçait un peu, c'est cette manière dont on est en train d'en faire une insulte politique. Même pour les plus hystériques, c'est quasiment du fascisme, en fait, hein, ni plus ni moins. Alors que moi, je pense que dans cette. On parlait justement de la fin d'un monde et de la naissance d'un nouveau monde. Je crois que cette transition se fait précisément par le populisme. Et moi, je pense que le populisme a, alors, pas forcément dans tous ses aspects, mais il a des aspects très positifs. Et c'est notamment c'est pour moi, je l'analyse, on va dire, pour la résumer un peu, vous savez, c'est, comment dire, la réaction d'un peuple qui sent qu'on l'amène à l'abattoir, quoi, qu'on l'amène à l'abîme, et qui rue dans les brancards une dernière fois. Qui rue dans les brancards, non pas parce qu'il veut se substituer à la politique, tel que je le vois moi, c'est qu'il veut être conduit d'après ses intérêts, quoi, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une demande politique, là, le populisme. C'est-à-dire que c'est dire aux gouvernants, pensez à nous avant de penser aux autres. Pensez à nous, c'est-à-dire peuple français. Là, je parle des Français, mais ce sera peuple hollandais dans les Pays-Bas, ce sera peuple italien pour les populistes italiens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une volonté de retour, à mon avis, à la protection nationale et à une politique. Et c'est vraiment un mouvement très politique, en fait. Alors, les gens en France s'amusent souvent volontairement à le confondre avec la démagogie. Moi, je crois que c'est autre chose que la démagogie. Et je crois que c'est surtout quelque chose de très nouveau, qui n'a rien à voir évidemment avec le fascisme, qui n'a rien à voir avec le nationalisme même, qui est vraiment une demande politique d'être pris en considération, quoi.
Et on en revient à ce dont on parlait juste avant au niveau de la pandémie. La pandémie est l'occasion aussi peut-être pour le populisme tel que vous l'entendez de regagner quelques lettres de noblesse puisque finalement les thèses d'une certaine relocalisation de l'économie, on voit avec la pandémie que ce dont tout le monde disait il y a encore quelques mois que c'était soit impossible, soit pas souhaitable, et ben on voit que c'est à la fois possible et souhaitable.
Tout à fait. C'est là où je suis absolument d'accord avec vous, et c'est là où je pense que cette pandémie, en fait, en ce qui concerne, c'est peut-être là qu'on peut d'ailleurs la lier au gilet jaune, comme vous essayez de le faire avant. C'est-à-dire qu'elle est un accélérateur, si vous voulez. Elle est quelque chose qui, quoi, tout ce que montre cette pandémie, La vérité, c'est qu'on on commençait à le pressentir, notamment, on va dire, entre guillemets, les populistes le pressentaient, le disaient, mais leur voix ne portait pas. Mmh. Et là, je pense que ça va accélérer les choses. C'est-à-dire qu'il y a, des gens qui vont, des gens, des gouvernants, j'entends, ou des gens qui ne sont pas dans le spectre populiste, qui vont peut-être se dire, tiens, c'est... Alors évidemment, ils vont essayer de tirer la couverture à eux, de dire, c'est dit. Bon, mais peu importe, l'essentiel, c'est que faut espérer que le boulot soit fait à la fin de cette épreuve, quoi. Mais c'est là où effectivement il y a quelque chose qui est il y a une séquence qui est cohérente, quoi. Il y a une grande cohérence. On s'aperçoit tout d'un coup que ben voilà, le monde qu'on est en train de créer, il est d'une fragilité inouïe, quoi.
Pour revenir à votre livre Le populisme ou la mort, je considère qu'il est courageux à la fois par ce qui est écrit dans le livre et puis aussi parce que d'une certaine manière vous prenez le risque probablement de vous fermer certaines portes. Peut-être que certains éditeurs seront éventuellement plus prudents. On sait que maintenant, en France, il y a quand même une forme de censure qui s'exerce sur certains écrivains, soit pour ce qu'ils écrivent, soit pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire aussi pour ce qu'ils pensent, pour des éléments d'ordre privé, sans doute tout à fait condamnables. Là n'est pas la question, mais les textes sont analysés à l'aune de la vie morale des écrivains, de leurs pensées, qui sont plus ou moins conformes et plus ou moins justes. Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même de très inquiétant au pays de la liberté, au pays de Voltaire, avoir des écrivains mis au pilori comme ça, soit pour leur comportement, soit même pour leurs idées qui sont considérées comme non conformes?
Écoutez, pour moi, c'est une catastrophe. Ça, c'est évident, c'est une catastrophe. Mais si vous voulez, moi, ce dont je me rends compte en France, notamment, c'est que l'idéologie a tout gagné. C'est qu'aujourd'hui, en effet, ce que vous dites est très, très juste. Et qu'aujourd'hui, j'allais dire, on ne juge plus les gens selon leur mérite ou selon leur honnêteté intellectuelle ou selon leur talent. Mais bon, on les juge selon leur engagement. Si l'engagement n'est pas le même que celui que, d'après, on va dire, l'intelligentsia, il conviendrait d'avoir, vous êtes blacklisté. En dehors de vos mérites propres, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est le propre de presque de la justice idéologique, c'est-à-dire de dire de pas... on peut avoir un engagement et être un type bien, et l'inverse. On peut avoir un mauvais engagement et être un type bien, et on peut avoir un bon engagement et être un sale type. Donc il faut juger les gens sur... Mais bon, ça, c'est terminé aujourd'hui. Vous savez, c'est y a vraiment... Je viens de lire récemment un livre très intéressant d'un roman qui s'appelle Anna, d'un écrivain qui a totalement disparu, qui a été réédité, là, qui s'appelle André Terrive, qui était un intellectuel de droite entre deux guerres assez connu et qui était, critique littéraire au Temps, qui était le grand journal français à ce moment-là à Paris, et lui a analysé ça en fait en montrant que c'est vraiment, si vous voulez, pendant l'entre-deux-guerres par exemple, il y avait encore ce respect de l'adversaire, c'est-à-dire qu'on pouvait chroniquer dans l'Action française un écrivain communiste et vice-versa. Ouais. On pouvait dire je ne suis pas d'accord avec ce monsieur, mais son livre, et puis discuter. Ça, c'est fini. Effectivement, c'est fini. Moi, je pense, alors il y aurait quelque chose là-dessus à certainement à écrire, mais je pense que c'est avec la suprématie des communistes à la sortie de la Seconde Guerre mondiale qui ont pris les postes culturels petit à petit et qui, avec une forme de fanatisme idéologique quand même, ont coupé court à cette liberté. Vous savez, c'est Sartre qui dit « tout anticommuniste est un chien ». À partir du moment où tout anticommuniste est un chien, on ne discute plus, on ne discute pas avec un chien. On lui met un coup de pied ou on le met dans un chenil. Enfin. Et donc, je pense qu'on en est largement resté là en France, et c'est effectivement une tragédie pour la liberté, puisqu'aujourd'hui, il y a des écrivains qui sont... tricard, j'ai envie de dire, tricard dans les sphères, en tout cas, dans les sphères journalistiques et dans les sphères intellectuelles qui comptent, quoi. Et ça, c'est vrai. Alors, en effet, quand j'ai publié Le populisme ou la mort, je savais que je prenais un risque. Mais si vous voulez, à un moment donné, moi, ce qui m'a poussé à publier ce livre, je vous dis, il n'y a pas de provocation de ma part, mais c'est simplement de me dire qu'il y a un moment donné, à force de baisser la tête et de longer les murs pour des idées moi, j'estime que mes idées ne sont pas odieuses, ne sont pas, sont légitimes. Et vous voyez, à un moment donné, on joue un jeu selon les règles fixées par l'adversaire. Donc moi, je me suis dit, il faut sortir de ces règles du jeu, et puis on verra. Et puis si plusieurs le font, peut-être qu'à un moment donné, c'est comme ça qu'on réussira en tout cas à conquérir ou pas la place qui nous est due, quoi. Mais je crois qu'à un moment donné, vous voyez, il y a une forme, le mot guerre vous paraîtra tout de suite excessif et grandiloquent, mais il y a quand même une forme à un moment donné de lutte, vous voyez, d'assumer ce qu'on est. Il n'y a pas de raison, si vous voulez, que ce soit toujours les mêmes idées qui ont décidé une fois pour toutes que les autres idées sentaient mauvais et étaient nauséabondes, comme ils aiment dire. Non, pas forcément, non.
Est-ce que cette tradition du débat littéraire, de l'échange d'arguments, d'idées, elle n'a pas disparu aussi en partie par la disparition même des supports. C'est-à-dire qu'on, en tout cas en Suisse, et c'est probablement le cas aussi en France, la critique littéraire a très largement disparu des grands journaux, les espaces de débat, d'interview, de dialogue autour des livres et des idées ont très largement disparu aussi. Est-ce que tout ça n'est pas la conséquence de cette logique-là aussi? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de lieu véritablement d'échanges d'idées et d'arguments, ces lieux où, comme vous le racontiez, finalement, des écrivains de droite, de gauche, de toute obédience pouvaient se retrouver et débattre parfois avec des arguments extrêmement virulents. On sait que ça pouvait aller au 19e siècle jusqu'au duel, les questions d'honneur, etc. Mais voilà, est-ce que c'est pas la disparition aussi des formats et des supports qui est responsable de ça, à côté de la stricte idéologie?
Oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais je crois que la disparition de ces supports, elle n'est qu'une conséquence, si vous voulez, d'un refus du vrai débat et qui fait que le débat est devenu un débat entre gens, en vérité, qui sont d'accord sur l'essentiel et qui, par conséquent, c'est de l'eau tiède, ça n'intéresse plus personne, donc ça disparaît. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là que je le vois. Alors, après, il faut voir aussi ce qui n'est pas faux, c'est qu'en ce moment, il y a quand même, vous savez, devant l'offensive populiste en France et notamment devant les scores d'un de ces grands partis populistes, et je pense au parti de Marine Le Pen, qu'à un moment donné, plus personne ne pouvait nier que ce parti avançait d'élection en élection. Donc il y a quand même, la télévision a ouvert à des personnalités, parce qu'ils ont quand même senti, alors quand je dis la télévision, c'est pas toute la télévision, mais c'est les petites chaînes, on va dire les petites chaînes du câble, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais les petites chaînes périphériques, mais ont quand même ouvert. Par exemple, je pense évidemment à un chroniqueur comme Éric Zemmour, qui est maintenant à sa tribune dans une chaîne qui s'appelle CNews. Ça, c'est quand même quelque chose qui était inenvisageable il y a peut-être encore 10 ans ou 15 ans. Donc les choses s'ouvrent tout doucement parce que, si vous voulez, à un moment donné, le fossé entre ce que pensent les élites, pour faire vite, et le peuple est devenu tellement béant que si vous voulez, ça n'est même pour eux, ça n'est plus vivable, ça n'est plus tenable. Donc ils sont obligés de donner quand même quelques gages. Alors bon, moi ce que je souhaite, c'est qu'il y ait évidemment beaucoup plus de diversité intellectuelle et idéologique à la télé, parce qu'encore aujourd'hui, ça reste totalement disproportionné. Vous voyez encore des débats sur les grandes chaînes, c'est ahurissant. Si vous voulez, c'est des débats où on a l'impression que tout le monde est d'accord et du coup, le débat porte sur des choses totalement anecdotiques, vous voyez. Oui, pour vous donner un exemple, quand même, il y a quelque chose que je trouve inouï. Si vous voulez, aux États-Unis, il y a des économistes qui écrivent des livres sur l'euro, sur des livres incroyables, enfin d'une critique, notamment, il y en a, alors j'ai oublié son nom là, j'aurais dû le regarder avant, peu importe, mais il y a un économiste très influent aux États-Unis qui a publié un livre. Ce livre n'est pas traduit en français. C'est-à-dire que le débat, par exemple, sur l'euro, sur la monnaie unique en France, c'est quelque chose d'inouï. Je pense qu'en Union soviétique, c'était pas mieux, quoi. Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que on fait comme si cette monnaie ne posait aucun problème, n'avait pas. Alors, vous voyez ce que je veux dire ?
Absolument.
Ça, c'est quelque chose de fascinant. C'est-à-dire que dans une circonstance normale, il y a encore quelques décennies, quand la France savait encore débattre, il y aurait eu des débats régulièrement à la télévision pour contre l'euro. Là, non. Vous voyez, il y a une espèce ça, c'est quand même très, très inquiétant, parce qu'il y a un déni de réel, et là, c'est vraiment l'idéologie pure. C'est-à-dire que l'euro peut nous faire sombrer, on refusera d'en discuter pour des raisons idéologiques. Et ça, c'est quand même quelque chose que je trouve assez, assez inquiétant, quoi.
Oui, vous parlez des États-Unis, c'est vrai qu'on peut penser beaucoup de choses des États-Unis. En l'occurrence, ils ont une tradition du débat et de la liberté d'expression protégée par je ne sais quel numéro d'amendement, mais enfin, ils ne rigolent pas avec ça. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a des néo-nazis, il y a des antisémites, tout ce qu'on veut, et ces gens-là ont assez peu d'audience. C'est-à-dire que plus on les laisse s'exprimer, plus ils se décrédibilisent d'une certaine manière par leur outrance et leurs excès. Et on a l'impression que de mettre des chapes de plomb, finalement, c'est à la fois inutile et contre-productif.
Et contre-productif. Alors après, il est vrai que par rapport, comment dire, moi, je trouve ça normal qu'en Europe, si vous voulez, on n'a pas la même histoire qu'eux. Un parti néo-nazi en Europe, ça me choquerait moi-même, vous voyez ce que je veux dire. C'est que les États-Unis n'ont pas connu le nazisme sur leur sol. Ils ont une conception de la liberté telle qu'ils se disent, bon, c'est un petit parti, c'est pas grave, on le surveille quand même. J'imagine que la police secrète le surveille quand même de près. Bon, mais si vous voulez, moi, j'en suis vraiment pas réclamé. C'est une liberté absolue et totale. Je pense qu'il y a des qui est certains freins, et notamment dans ce que vous dites, c'est-à-dire des gens qui ouvertement en appelleraient à massacrer les juifs, ça me semble juste qu'ils soient interdits de parole, vous voyez.
Bien
Mais
sûr.
enfin, moi, ça ne me choque pas, en tout cas. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est le on n'en est pas là, hein, on n'en est pas là. On en est vraiment aujourd'hui avec des idées qui sont extrêmement légitimes, des idées qui apporteraient quelque chose au débat, qui seraient, ne sont pas, n'ont aucune publicité au sens propre, c'est-à-dire n'ont aucun moyen de gagner le public, uniquement parce qu'elles déplaisent à des gens qui ont décidé que c'était comme ça. C'est ça, moi, qui me choque, vous voyez?
Tout à fait.
Et là, on a quelque chose on est une démocratie malade. C'est-à-dire que moi, je reste persuadé qu'à partir du moment où il n'y a pas de débat, à partir du moment où il n'y a pas de confrontation d'idées, je vous dis, il y a une forme, ça peut vous paraître choquant, mais il y a une forme, intellectuellement, en France, on est, d'une certaine manière, comme en Union soviétique. C'était vraiment, alors, même si les libertés formelles ne sont pas, vous voyez, sont pas mises à mal comme elles l'étaient en Union soviétique, on n'est pas, je veux dire par là, qu'il n'y a pas un matin deux flics qui vont venir chez moi m'embastiller, quoi. Mais dans les faits, il est évident qu'il y a des gens qui ne peuvent pas accéder à la parole, qui ne peuvent pas dire ce qu'ils ont à dire. Alors, c'est vrai aussi qu'avec Internet, ça a un peu changé la donne, hein. Il y a quand même des réseaux, des manières et des possibilités aujourd'hui de s'exprimer et de se faire entendre qui n'existaient pas il y a encore quelques décennies.
Pour revenir à la question de la pandémie et de la liberté, je m'étais fait la réflexion que la liberté va sortir perdante aussi de cette affaire du point de vue des maisons d'édition, puisque il y a, et votre livre en est la preuve d'une certaine manière, un certain nombre de maisons d'édition qui proposent des contenus, des livres qui ne vont pas forcément dans le sens du mainstream, on va dire ça comme ça. Et effectivement, ces maisons d'édition, par définition, sont plutôt de taille réduite, ont une capacité financière plutôt faible. Et est-ce qu'il ne faut pas craindre qu'à la fin, lorsqu'il y aura des sociétés qui vont devoir déposer le bilan, lorsqu'il y aura des faillites de librairies, de maisons d'édition, est-ce qu'on ne va pas assister là à une réduction encore de la diversité des livres produits, puisque finalement ne subsisteront que les plus grosses structures, celles qui ont les reins solides, la capacité financière de subsister à une crise telle que celle-ci et...
Ah oui, je pense que c'est incontestablement un risque, et c'est vrai dans tous les domaines, malheureusement. C'est-à-dire que les gros groupes avec les reins solides, comme vous dites, s'en sortiront mieux, en tout cas. Et il est vrai que c'est les petits qui vont mettre la clé sous la porte les premiers. Et les petits, vous avez raison, c'est souvent les éditeurs, non seulement des éditeurs d'ailleurs, on va dire un peu anticonformistes, donc qui publient des livres un petit peu, qui pensent différemment, mais même, vous savez, des petits éditeurs de littérature pure cette fois-ci, donc qui ont beaucoup moins d'enjeux politiques. Moi, je vois aujourd'hui, vous savez, alors ça, c'est lié évidemment aussi à l'économie et au fait que les maisons d'édition étant pris dans des grands groupes, si vous voulez, l'aspect pervers, c'est évidemment qu'on leur demande de la rentabilité plus importante et que par conséquent, elles prennent beaucoup moins de risques. Et même en littérature pure, en France, aujourd'hui, vous remarquez bien, c'est quasiment plus les gros éditeurs qui découvrent des nouveaux talents, ou voire qui rééditent, qui font tourner un petit peu le patrimoine. Il y a beaucoup de petits éditeurs, notamment à Bordeaux, des éditeurs, je pensais l'Éveilleur ou l'Arbre Vengeur, enfin des petits éditeurs qui sont très fragiles, qui font un travail absolument magnifique, mais là, en littérature pure, et c'est évidemment les premiers, c'est les plus fragiles, quoi. C'est eux qui risquent de se casser la figure, les premiers. Mais vous savez, ça, c'est vrai aussi, par exemple, je lisais récemment, je crois que c'est le Goemio qui a sonné un peu l'alarme en disant que dans la restauration, ça va être le même problème. C'est-à-dire que ceux qui vont se planter, c'est les petits bistrots de famille, j'ai envie de dire, vous voyez, les petits, et qui sont souvent les bistrots où on mange le mieux et les plus sympathiques. Enfin, vous voyez, les chaînes, évidemment, resteront.
C'est
vous
ça.
voyez, ça risque de faire des dégâts et ça risque paradoxalement d'uniformiser encore plus nos sociétés, c'est-à-dire
avec
des.
C'est ça.
Et ça, c'est effectivement quelque chose de dramatique.
Ouais, et dont on parle assez peu.
On en parle assez peu, oui.
Ouais, absolument.
Alors, c'est vrai que pour l'instant, on est encore dans la crise. Donc, bon, on gère ce qu'on a géré. Mais je pense que quand on va commencer à en sortir, on va se rendre compte des dégâts. Et en effet, ces dégâts seront des dégâts sur quasiment, j'ai envie de dire, entre guillemets, les meilleurs, quoi.
Ouais. On va bientôt terminer cet entretien, Olivier Moulin. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets actuels?
Alors, oui, écoutez, mes projets. Alors, vous savez, depuis quelques années, je me consacre beaucoup plus au journalisme, donc j'ai un peu moins le temps d'écrire pour moi, mais je suis quand même en train d'écrire un roman, mais alors je prends vraiment le temps de le faire, si vous voulez. Voilà, je prends le temps de le faire, mais ça avance ça avance bien, quoi, voilà, mais ça avance tout doucement. Je ne sais pas si vous connaissez cet écrivain qui s'appelle Albert Cosri, qui était un écrivain qui vivait dans une chambre d'hôtel à Paris, qui était un écrivain égyptien de langue française, que j'aime beaucoup, et qui a relu ce. Il disait qu'il ne fallait pas écrire trop parce que c'était fatigant, et alors il se vantait d'écrire une ou deux phrases par jour. Et donc, il écrivait, et puis après, il allait se promener au Luxembourg, il allait manger, enfin, il prenait le temps de vivre. Alors, moi, je suis un peu à ce rythme-là. Vous voyez, parfois, comme je suis un peu insomniaque, la nuit, je me lève, et puis pendant 2 heures, j'écris un paragraphe, je me recouche. Voilà. Donc, j'avance tout doucement, mais l'essentiel, c'est que ça avance. Et donc, c'est un roman qui sera un peu plus dans la veine, si vous voulez, justement des Lumières du ciel ou de ces romans un petit peu grand-polesques. Donc, parce que les retrouvailles dont vous parliez avant, et c'est plus là, un polar un peu. Vous voyez, c'était un peu un autre genre. J'ai toujours été partagé entre ces deux genres. J'aime bien le genre du polar. Je suis un grand lecteur de polar aussi. Et je voulais en faire, voilà, en faire un. Et j'avais essayé. Mais là, ça va être un livre un peu plus dans la veine picaresque des précédents, quoi.
Peut-être
Voilà.
pour terminer, que faut-il lire et qui faut-il lire aujourd'hui, selon vous?
Écoutez, je vous parlais là récemment, tout à l'heure, là, je vous ai parlé, alors j'insiste peut-être, mais je ne vais pas vous donner d'autres noms, mais c'est vraiment Jennio Corti. Là, je ne peux que vous inciter à le lire et inciter vos auditeurs à le lire parce que c'est vraiment un roman absolument fabuleux. Bon, je vous dis, c'est un monument, donc là c'était pendant le confinement, c'était la bonne période pour le lire. Vous savez, c'est un livre, moi je l'avais acheté en 94 à l'âge d'homme et je voulais le lire, mais j'avais toujours repoussé parce que c'est français, que j'avais toujours autre chose à faire. Puis là, je me suis dit, il est ressorti chez Noir et Blanc, je me suis dit, allez, je vais le lire, c'est vraiment fabuleux. C'est vraiment, si vous voulez, de l'ordre de, vous savez, de Guerre et Paix de Tolstoï ou de Vie et Destin de Vassili Grossman. C'est un roman monumental, ce qui est d'ailleurs étonnant parce que l'Italie n'est pas une grande terre de romanciers. Mais là, c'est vraiment un roman, un monument, si vous voulez, qui est incroyable. Et qui, avec une liberté, là précisément, vous voyez, une liberté de ton, une liberté dans l'analyse des choses. Que ce soit sur l'Italie mussolinienne d'ailleurs, ou que ce soit sur le communisme. C'est un livre qui a été très mal accueilli en 84 quand il est sorti en Italie, parce que l'intelligentsia italienne était encore très marxiste, et c'est un livre qui fait aucun cadeau au communisme, qui part du principe que les deux grands totalitarismes du XXe siècle sont le nazisme et le communisme. Et à côté de ça, le fascisme italien est une rigolade pour l'auteur. Il dit que c'est une plaisanterie, c'est presque un régime un peu bouffon, mais qui n'a pas eu du tout, ce qui n'a pas du tout été criminel comme l'a été le régime allemand ou le régime russe. Vous voyez. Ça, évidemment, ça ne pouvait pas marcher. En 84, donc
dans les années de plomb, oui.
Voilà, les années de plomb, ça pouvait pas marcher. Donc c'est un livre qui a été vraiment là pour le coup, vous voyez, étouffé par une chape de plomb. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est que, et là c'est quand même un message très rassurant, ce livre s'est créé, si vous voulez, en Italie, un lectorat souterrain. Et là aujourd'hui, il y a 33 rééditions depuis 84. Et pour les Italiens, alors il est assez peu sorti encore d'Italie, mais il commence quand même. Mais pour les Italiens, c'est considéré comme le grand roman du XXe siècle.
D'accord.
Et ça, c'est quand même très. Et alors aujourd'hui, donc il est traduit, il commence à être traduit quand même à l'étranger. Et c'est vraiment un roman tout à fait épatant, quoi.
Oui, dans les romans peut-être un peu plus contemporains et français, francophones.
Alors écoutez, dans les romans contemporains, là, pour vous dire la vérité, depuis le confinement, il n'y a rien qui m'est tombé sous la main. Moi, le dernier coup de cœur véritablement que j'ai eu pour un romancier français, c'est, alors pareil, c'est un gros livre aussi, mais c'est Le Triomphe de Thomas Zinn, ça s'appelle, d'un auteur qui s'appelle Mathieu Young. Alors c'est un livre qui est paru il y a 2 ans, je crois, en France, quelque chose comme ça, 2 ou 3 ans, qui malheureusement, alors pareil, il fait partie de ces livres, je lui souhaite un destin comme Le Cheval Rouge de Corti, mais c'est un livre qui a été relativement étouffé par la presse, il y a eu très peu de papier, mais c'est un livre quand même qui fait un petit chemin, et moi je connais pas mal de gens déjà qui le considèrent comme un, comment dirais-je, comme un livre important des 10 dernières années, un roman important. Et c'est vraiment un roman d'apprentissage qui se passe dans les années 80 à Nancy. C'est un roman absolument magnifique. Le Triomphe de Thomas Zinn de Mathieu Young. Ça, c'est vraiment, pour moi, dans les 10 dernières années, c'est ce que j'ai lu de plus beau dans le domaine français.
Vous avez certainement lu L'Homme surnuméraire de Patrice Jean?
Oui, alors écoutez, bravo de m'en parler parce que je vous voyez, j'allais enchaîner là-dessus. Et c'est, non, c'est vrai, c'est bien sûr pour moi aujourd'hui
l'auteur. Aimé.
Ah oui, c'est magnifique. C'est l'auteur aujourd'hui français qui commence à compter sérieusement et qui est apparu il n'y a pas si longtemps. C'est L'Homme surnuméraire qui l'a véritablement fait connaître. Il a publié dans une toute petite maison à Paris. Alors, c'est même incroyable qu'il ait réussi à exister comme ça. C'est vraiment une maison, vous voyez, quasiment d'artisan, quoi. Et effectivement, L'Homme surnuméraire, c'est un livre fabuleux. C'est un livre fabuleux qui, en plus, est apparu quelques semaines avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, il est sorti. Et puis, vous savez, c'est un livre qui, à la fin, annonce ce qui va probablement se produire et ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire la façon dont on va charcuter la littérature du passé et dont on va enlever les choses. Et alors, ce qui est drôle, c'est quand il est sorti quelques semaines après, en Italie, justement, il y a eu un opéra de l'opéra de Bizet Carmen qui est sorti, et le réalisateur, enfin, le metteur en scène de l'opéra, l'opéra, a changé la fin, parce qu'il trouvait que la fin, que Carmen se fasse tuer, c'était quand même un féminicide odieux. Et donc, il a changé la fin et il fait que Carmen tue son oppresseur, quoi. Et alors, ce qui m'avait fasciné, c'est que, si vous voulez, le livre sort et donc, vous voyez, quelques semaines après, ce qui prédisait est arrivé et ça arrivera de plus en plus. Je suis persuadé que, ça, c'est aussi un des aspects les plus dramatiques de ce progressisme idiot qui ne veut plus voir, si vous voulez, qui ne veut plus voir avec des yeux, comment on pourra dire ça. Aujourd'hui, en fait, tout ce qui nous choque dans le passé, on n'arrive plus à s'abstraire, à dire c'était une autre époque, les gens pensaient différemment, il faut l'accepter. Non, on ne peut plus. Et ça, c'est quand même le progressisme qui nous coupe avec notre patrimoine et avec notre culture. Et c'est pour moi la chose la plus dangereuse du progressisme, elle est là, si vous voulez. Elle est que, vous voyez, le patrimoine devient scandaleux parce que la littérature du passé, elle est faite d'homophobie, d'antisémitisme, de racisme,
ça a été très clair avec l'affaire Maznev, où finalement on lit avec les lunettes de 2020 des comportements des années 70, alors qu'ils certes étaient sans doute condamnables, voire pénalement répréhensibles, mais tout de même, tous les intellectuels, toute l'intelligentsia, Bernard Pivot le premier, célébraient cet auteur. On retrouve des vidéos, hein, vous parliez du rôle d'Internet et des réseaux sociaux, c'est très amusant de voir comme à chaque épisode de ce type-là, des vidéos ressortent, toutes plus compromettantes les unes que les autres pour tous les commentateurs autorisés. Il y a quelque chose d'assez jouissif à ça aussi.
Oui, tout à fait. Et puis surtout, à l'époque, le truc, c'est que, comme vous le dites très bien, très justement, à l'époque, ça, les gens rigolaient, quoi. Pivot se marrait, il disait, oui, bon, c'est... Alors bon, après, je pense qu'il y avait aussi... Je ne suis pas certain que quand je dis le peuple, c'est-à-dire les gens populaires, aient marché dans cette combine. Je pense qu'eux ont toujours gardé cette espèce de...
Il y avait une connivence, parisienne.
Voilà, c'est ça. Il y avait quelque chose qui choquait personne. Alors aujourd'hui, quand on les voit tous crier, faire leur cri d'orfraie, là, c'est vrai que c'est risible. Mais je veux dire, vous voyez, on n'est pas loin, mais alors imaginez, même quand vous prenez des romans, des grands romans du XVIIIe siècle, la manière, je n'ai pas d'exemple en tête, mais la manière de traiter, par exemple, les Noirs ou les esclaves en Amérique, c'est la manière du temps, c'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire, on en parle... Comme les gens en parlaient à l'époque. Mais au lieu de réussir à s'abstraire de ça, de dire, bon, bah, c'était une autre époque, on veut se couper de cette... comme si tout notre passé était radioactif. Quoi. Mmh, et donc, il faut s'en couper et donc vivre sans passé dans le présent. Et ça, c'est dramatique. Quoi.
Très bien, Olivier Molin, bah, écoutez, c'était la dernière question. Je vous remercie beaucoup d'avoir
pris le temps. C'est moi qui vous remercie.
C'était Lettres romandes, un podcast proposé par Julien Sansonnance. Abonnez-vous sur iTunes, Google Podcast ou sur lettres-romandes.ch. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à mettre une note dans votre application de podcasting afin de contribuer à notre visibilité. Et n'hésitez pas à partager cet épisode et les précédents sur les réseaux sociaux.